contemporain, c'est-à-dire c'est le monde, non seulement les mondains, mais le monde qui fait son apparition sur le théâtre, avec des sujets de conversation. On parle de théâtre, il est question d'aller à la comédie, on va organiser une petite danse, on fait venir des musiciens, comme dans les salons on fait venir des musiciens, on parle poésie, enfin on esquisse, etc. Exactement, on enchaîne des éléments de conversation, exactement comme dans les salons. Le choc, ça a été ça. Molière a fait monter le monde contemporain sur le théâtre. C'est pour ça que bientôt, on va l'appeler le peintre. Le naturel de Molière et son naturel de peintre, c'est le fait d'avoir donné l'impression de transposer les comportements des contemporains, les habitudes des contemporains, les valeurs des contemporains, les sujets de discussion des contemporains, etc. Et pourquoi est-ce que ça marche ? On aurait pu penser qu'ils auraient été outrés, les aristocrates. Mais l'une des éléments de l'éthique mondaine, qui est la distance, le je ne sais quoi en matière de goût, le naturel, c'est aussi l'autodérision.
Le jeune Cléon, chez qui vont aujourd'hui nos plus honnêtes gens, que dites-vous de lui ?
Que de son cuisinier, il s'est fait un mérite et que c'est à sa table à qui l'on rend visite.
La raillerie, c'est rire ensemble autour du même système de valeurs et être ensemble de manière agréable pour justement juguler les oppositions et les tensions. Et on a des commentateurs contemporains qui louent la manière dont le roi est capable de rire, notamment des plaisanteries un peu scabreuses qui courent sur son compte à la cour. Et ils admirent, en fait, cette modération et cette manière d'accepter les tensions et de les résoudre et de les diluer dans le rire.
Autodérision, tempérance, libéralité. Ces valeurs défendues dans les salons, celles qui définissent l'honnête homme, se retrouvent textuellement dans le théâtre de Molière. Elles sont notamment portées par le personnage de Philinte dans Le Misanthrope, dont la pondération se heurte aux colères d'Alceste.
Hey, c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler, de corriger le monde. J'observe, comme vous, 100 choses tous les jours qui pourraient mieux aller, prenant un autre cours, mais quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître, en courroux, comme vous, on ne me voit point être, je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe autant que votre bile.
Mais ce flegme, monsieur, qui résonne si bien, ce flegme, pourra-t-il ne s'échauffer de rien ?
Alceste, s'il est si opposé à Philinte, qui est au contraire l'incarnation de l'éthique galante, puisque c'est l'homme du juste milieu, l'homme qui cherche à soupeser les choses, l'homme qui cherche à raccommoder les opposés parce que rien n'est assez fort pour ne pas pouvoir être raccommodé, etc. Celui qui s'oppose à ça, c'est Alceste qui déteste absolument, il le dit, la complaisance. Or, la complaisance, c'est le lien de la civilité.
S'il faut qu'une attente éternelle pousse à vous l'ardeur de mon zèle, le trépas sera mon recours. Vos soins ne m'en peuvent distraire. Belle Phyllis, on désespère. Alors qu'on espère. Toujours.
La chute en est jolie.
Louis XIV, il grandit dans un milieu qui est celui de personnalités, de dames et d'hommes qui, lorsqu'ils quittent la cour, soit ils sortent des salons de tel ou de tel et ils arrivent à la cour, ils racontent l'histoire qu'ils ont entendue dans tel salon, ils viennent avec telle poésie qui a été, etc., etc. Donc il y a une osmose et Louis XIV, il a baigné dans cela, évidemment. Et d'où le fait qu'il va vouloir faire de Versailles le grand salon de la France, en quelque sorte. Donc que Molière et Louis XIV aient partagé une proximité de pensée de ce point de vue-là, c'est évident.
En mai 1660, 6 mois à peine après le triomphe des Précieuses Ridicules, Molière présente sa nouvelle pièce, Sganarelle ou le cocu imaginaire. L'histoire d'un homme persuadé que sa femme le trompe et que son obsession rend violent et irascible. Ce personnage ridicule, aux antipodes des valeurs de tempérance incarnées par l'honnête homme, n'achève pas seulement de faire de Molière le héros des salons, il bouscule encore la manière de faire du théâtre.
Doucement, s'il vous plaît. Cet homme a bien la mine d'avoir le sang bouillant et l'âme un peu mutine. Il pourrait bien, mettant à front, dessus à front, charger de bouer mon dos comme il a fait mon front.
Il y a juste une chose, c'est que si on pense au public, que le public comprend, tout le public ne comprend pas charger de bois le front, ça veut dire quoi? Donc du coup, le jeu de... Oui. De la corne, plutôt que de faire simplement avec un doigt, ça me paraît important. Pour l'intelligence du texte, pour le public, il faut que tu fasses, tu esquisses le signe de, du cocu et du cerf, avec le bois du cerf.
À travers le personnage de Sganarelle, Molière invente également ce qui sera une des constantes de son théâtre, c'est-à-dire le caractère obsessionnel du personnage, et qu'on retrouvera dans la plupart des grandes comédies de caractère de Molière, depuis l'avare jusqu'au misanthrope, tous ces personnages d'obsessionnels.
N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Que dites-vous ?
Évidemment, il y a une sorte de linéarité de l'intrigue qui se construit à partir de ce qu'on n'appelle pas du tout la psychologie du personnage. À l'époque, le terme est totalement anachronique. On ne cherche pas à savoir ce qui se passe dans l'esprit des gens, mais plutôt à comprendre un caractère qui se résume par une caractéristique principale de personnalité qui va en fait habiter tout le comportement et être le moteur de toutes les actions du personnage. Donc il y a une ligne dramaturgique qui est extrêmement forte et qui va suivre ce personnage.
Sortons. Je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils, à fille, et à moi aussi. Que de gens assemblés! Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tout me semble mon voleur. De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise, n'est-il point caché là, parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont peur sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons vite. Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après.
C'est l'acteur en lui qui écrit. Ce n'est pas de la littérature, Molière. Bon, bien sûr que oui, parce que c'est formidablement écrit. Mais c'est du théâtre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait à tout instant ce dont a besoin une actrice ou un acteur. Voilà. Ce dont le corps d'un acteur ou d'une actrice a besoin. Pas seulement la cervelle ou la bouche ou la voix. Le corps. Et c'est parce qu'il était un très très grand acteur lui-même. Il était probablement le Charlie Chaplin de son époque.
Fait la force au départ de la révolution, de la deuxième révolution moliéresque, donc 6 mois après Les Précieuses Ridicules, c'est que Molière, il va introduire dans le jeu comique quelque chose qu'il emprunte au plus célèbre des acteurs italiens, qui s'appelle Scaramouche. C'était jamais arrivé avant Molière qu'il y ait quelqu'un qui fasse des grimaces inspirées par un mime italien, parce que Scaramouche, il parlait quelquefois, mais il était surtout un mime. Et donc le fait que Molière, pour la première fois, ait eu l'idée géniale, parce que ça a révolutionné encore une fois le jeu de l'acteur français, d'imiter Scaramouche ou de reprendre à Scaramouche l'expression grimacière des émotions. C'est un travail de mime à l'origine qui a été transposé dans un discours parlé, et c'est ça la révolution de Molière, c'est ça. Et c'est ce jeu grimacier qui va stupéfier les contemporains. Et on a la chance que pour faire passer l'édition pirate de Sganarelle au Coq Imaginaire, l'auteur lui dit « Molière démonte son visage plus de 20 fois ». C'est grâce à ça qu'on a pu exactement enfin, approfondir un peu les caractéristiques du jeu de Molière.
La voix U se forme en approchant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les deux lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les rejoindre tout à fait. U. Cela est admirable.
En bouleversant le jeu de l'acteur, en portant sur le plateau le monde contemporain, Molière est en train de révolutionner l'histoire du théâtre. Ses pièces font salle comble, la rumeur enfle. Elle gagne bientôt la province.
Le triomphe des Précieuses Ridicules, suivi du succès de Sganarelle ou le Cocu Imaginaire, c'est une grande frustration pour Louis XIV. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'est pas là. La cour est partie de Paris en novembre 1658. Elle va revenir à Paris à l'été 1660, après le mariage du roi qui s'est déroulé à Saint-Jean-de-Luz au mois de juin. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est ça qui est très intéressant. Le roi revient en juillet et première chose qu'on fait, c'est qu'il demande à la troupe de monsieur, ton frère, de venir représenter l'étourdi et le dépit amoureux et les deux succès triomphaux que sont les Précieuses Ridicules et Sganarelle ou le Cocu Imaginaire. Et donc, c'est très intéressant de voir que Louis XIV est si impatient que une des premières choses qu'il fait arriver à Paris, il s'offre à lui-même le plaisir de voir ces deux pièces. Le roi a mis son doigt dans l'engrenage dès qu'il a vu Molière et désormais, il n'en sortira jamais, quoi.
Aujourd'hui, la face du théâtre change. Jusqu'à ce jour, j'ai laissé gouverner mes affaires par mes ministres sous la direction de feu le cardinal Mazarin. Désormais, je régnerai seul.
Le 10 mars 1661, au lendemain de la mort de Mazarin, Louis XIV, que l'on croyait uniquement préoccupé par ses divertissements et ses amours, annonce qu'il gouvernera par lui-même. C'est la fin de la régence et une véritable naissance politique. Sous la férule de Colbert, principal ministre, les artistes du royaume sont appelés à apporter leur concours à l'appareil de glorification de la personne royale.
Le roi danse! Donnez la plus belle musique du monde au dieu Jupiter, maître de l'univers!
Toutefois, le principal mécène du royaume n'est alors pas le roi, mais son surintendant des finances, Nicolas Fouquet. Le brun pour la décoration intérieure, le veau pour l'architecture, le nôtre pour les jardins. Les plus grands artistes du temps travaillent à sa gloire et à l'édification de son nouveau château de Vaux-le-Vicomte. C'est là, le 17 août 1661, que va se jouer l'acte qui va achever d'orienter la politique culturelle de Louis XIV. Molière, à son corps défendant, va y prendre une part non négligeable.
Alors Nicolas Fouquet offre au roi de France un divertissement aristocratique digne de ce nom. C'est-à-dire que tout divertissement princier doit contenir ballet, comédie, collation, concert de musique et feu d'artifice. Donc on a tous les ingrédients de ce divertissement qui sont prévus pour la fête de Vaux-le-Vicomte.
Dans ses jardins, Fouquet a fait construire tout spécialement un théâtre doté d'une spectaculaire machinerie. Et il a demandé à l'auteur le plus en vogue du moment, Molière,